VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous, Bagassi Koura et Michel Joseph en votre compagnie ce matin. Bienvenue à cette édition du mardi 28 avril 2015. Au sommaire ce matin.
Les autorités burundaises ont fermé hier la principale radio indépendante du pays et arrêté Pierre Claver Bonimpa, l'une des figures de la société civile.
Plus de 72 heures après l'attaque meurtrière de Boko Haram contre l'armée du Niger à Karamga, une île du lac Tchad, c'est toujours le silence du côté de Niamey.
Ouverture ce matin des états généraux de la justice en RDC.
Et il nous faut aujourd'hui prendre des résolutions fermes. Qu'on puisse prendre le taureau par les cornes et qu'on puisse secouer le baobab, que l'on voit un peu de quel côté et pourquoi la justice ne fonctionne pas.
Aux États-Unis, affrontement de rue hier à Baltimore après les funérailles d'un homme noir qui a succombé à ses blessures après sa détention par la police.
J'ai vécu ici pendant beaucoup d'années et c'est ma première fois de voir vraiment une situation aussi catastrophique que nous sommes en train de constater.
Ce matin, le témoignage d'un Malien résident de Baltimore. Et ne manquez pas la Minute Éco et les sports, mais avant le journal.
Les autorités burundaises ont fermé hier la principale radio indépendante du pays et arrêté l'une des figures de la société civile opposée à un troisième mandat du président Pierre Nkurunziza. Jean-Roger Bion.
La radio publique africaine, station la plus écoutée du pays, a perdu son autorisation d'émettre et son signal est coupé. Elle est accusée par les autorités d'incitation au soulèvement. Depuis dimanche, les trois principales radios privées du Burundi ne pouvaient plus émettre en dehors de Bujumbura. Hier matin, Pierre Claver Mbonimpa, patron de la principale organisation de défense des droits de l'homme, a été arrêté. Un mandat d'arrêt a été émis contre Vital Nshimirimana, président du Forum de la société civile. Il est passé dans la clandestinité, mais a promis de poursuivre le mouvement anti-Nkurunziza. Environ 320 personnes ont été arrêtées selon un responsable de la police. Trois personnes ont été tuées dimanche dans des affrontements entre manifestants et policiers. Deux autres personnes ont péri après des descentes nocturnes à Chibitoke, au nord de la capitale burundaise.
Boko Haram a mené une attaque meurtrière samedi contre l'armée du Niger à Karamga, une île du lac Tchad, plus de 72 heures après les bilans diffèrent. Et c'est le silence du côté de Niamey. Félix Yepassi Sezembrou.
L'armée nigérienne a perdu 48 soldats et 36 se sont portés disparus selon une source sécuritaire tchadienne. Un élu de la région de Difa, dans l'extrême-est du Niger, fait état de 80 soldats tués et une trentaine de disparus. Une autre source proche de l'armée parle de 100 morts et 17 disparus. Un agent humanitaire déclare qu'il y a eu énormément de pertes à Karamga, une île du lac Tchad où étaient positionnés 120 à 150 soldats nigériens. Les combattants de Boko Haram ont pris d'assaut l'île le samedi à l'aube et sont restés jusqu'à la mi-journée. Il a fallu l'intervention des hélicoptères tchadiens stationnés à Difa pour les déloger. Cette île a déjà été attaquée le 20 février. Le bilan officiel était 7 soldats et 15 islamistes tués. Mais pour cette dernière attaque, l'armée nigérienne tente de faire le point et aucun officiel ou cadre militaire n'a voulu faire un commentaire.
Le président sortant du Togo, Faure Gnassingbé, arrive en tête de la présidentielle avec 62% des suffrages contre 32% à son principal adversaire, Jean-Pierre Fabre, selon de premiers résultats partiels annoncés lundi par la commission électorale. Selon l'AFP, ces résultats représentent environ 12% du nombre estimé de votants et concernent 934 bureaux de vote sur 8 994 au total, dans 6 régions différentes, dans le centre, le nord et le sud.
Au Mali, un groupe armé favorable à Bamako a pris lundi le contrôle de Menaka. C'est une localité du nord du pays, jusqu'alors partiellement contrôlée par la rébellion, qui a dénoncé, selon l'AFP, une rupture manifeste du cessez-le-feu par le gouvernement. Cette opération intervient peu après l'accord donné par la coordination des mouvements de l'Azawad à un paraphe de l'accord pour la paix au Mali, déjà entériné par le gouvernement et ses alliés qui le soutiennent le 1er mars à Alger.
Les autorités libyennes disent précise que les militants islamistes ont fini par tuer les 5 journalistes d'une chaîne de télévision privée. Ils étaient portés disparus depuis 8 mois. Les 5 journalistes ont été égorgés et leurs corps retrouvés près de Baïda, une ville de l'est du pays. Les journalistes travaillaient pour la chaîne Barqa et avaient été enlevés après avoir couvert l'ouverture du Parlement internationalement reconnu en août à Tobrouk.
Alors que l'Afrique du Sud est montrée du doigt après les violences xénophobes, le président Jacob Zuma a reproché hier à ses voisins l'immigration massive dans son pays. Lionel Gaïma.
Pourquoi les citoyens ne sont-ils pas dans leur propre pays? S'est interrogé le président Zuma dans une allocution à Pretoria à l'occasion de la fête nationale. Il a ajouté que ces problèmes doivent être discutés d'abord au sein de la SADC, puis l'Union africaine. Condamnant les violences xénophobes, il a cependant dénoncé l'immigration clandestine et les sans-papiers. Ces attaques contre les immigrés africains dans les townships de Durban et de Johannesburg ont fait 7 morts et des milliers de déplacés. Conséquence, des appels au boycott des produits sud-africains ont même été lancés sur le continent, tandis que le Nigeria a appelé son ambassadeur pour consultation. Mais depuis une semaine, aucun incident sérieux n'a été signalé. L'armée a été déployée dans certains quartiers chauds pour prévenir tout débordement. Elle a encore effectué hier 2 raids avec la police à Johannesburg.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, les affrontements de rue ont éclaté hier à Baltimore après les funérailles d'un homme noir qui a succombé à ses blessures durant sa détention avec la police. Baltimore est situé à 40 kilomètres de Washington. Le gouverneur du Maryland, Larry Hogan, a déclaré l'état d'urgence et déployé la garde nationale pour aider à ramener le calme dans la ville à majorité noire. La maire de la ville, Stephanie Rawlings Blake, a déclaré un couvre-feu nocturne d'une semaine.
Et c'est dans ce climat que Loretta Lynch a prêté serment lundi en tant que nouveau attorney général ou ministre de la Justice des États-Unis. Lynch est la première femme africaine-américaine à occuper ce portefeuille. Elle succède à Eric Holder, qui fut le premier noir à occuper le poste avant de démissionner après 6 ans de fonction.
Toujours ici aux États-Unis, la Cour suprême va écouter à partir d'aujourd'hui, mardi, les arguments pro et anti sur la constitutionnalité du mariage homosexuel. Il s'agira assurément d'une décision historique, au moment où 36 États sur 50, plus Washington DC, ont déjà reconnu ces mariages. Les précisions de Timothée Donangmaï.
La plus haute instance judiciaire américaine devra répondre à la question suivante. La Constitution américaine garantit-elle la possibilité pour les couples homosexuels de se marier au même titre qu'un homme et une femme? La saisine de la Cour suprême est le fait de couples gays de l'Ohio, du Michigan, du Tennessee et du Kentucky qui veulent se marier ou voir leur mariage reconnu. Si la Cour suprême tranche en leur faveur, sa décision, attendue en juin, s'appliquera aussi à la dizaine d'autres États où ces mariages restent proscrits. En d'autres termes, un État du pays est-il tenu par la Constitution d'autoriser les couples homosexuels à se marier? Et un État est-il tenu de reconnaître les mariages homosexuels prononcés dans un autre État du pays? Les arguments vont tourner essentiellement autour du 14e amendement de la Constitution qui garantit l'égale protection de tous, le même amendement qui, en 1967, avait permis à la Cour suprême, dans un cas contre l'État de Virginie, d'annuler les lois interdisant les mariages interraciaux.
Parlant toujours des droits des gays, la Haute Cour de justice du Kenya a sommé le gouvernement d'enregistrer un mouvement des droits des homosexuels que le gouvernement avait précédemment refusé de reconnaître pour des raisons morales et religieuses. Le tribunal a déclaré hier que la Constitution kenyane reconnaît et protège les droits des minorités et ne permet pas l'exclusion sur une base morale.
Le secrétaire d'État américain John Kerry affirme que les États-Unis vont fournir une aide supplémentaire de 9 millions de dollars au Népal, pays ravagé par le tremblement de terre. Au total, 10 millions de dollars ont été annoncés depuis le séisme de samedi. L'Agence américaine pour le développement international affirme que ces fonds seront utilisés pour les efforts de secours immédiats.
Voilà, l'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco. Ce matin, c'est avec Félix Yepassis Zembrou.
Le Maroc, dont l'agriculture constitue un pilier de l'économie, va connaître une récolte céréalière record, a indiqué lundi le ministre de tutelle, Aziz Akanouche, peu avant l'ouverture du salon de Meknès, principal rendez-vous du secteur dans le royaume. L'agriculture représente plus de 15% du PIB du Maroc et le royaume a lancé en 2008 un projet sur le long terme visant à renforcer ce secteur dont les besoins restent estimés à près de 10 milliards d'euros d'ici 2020. Au Mali, une nouvelle mine d'or dont les réserves sont estimées à 240 000 onces, soit environ 7,7 tonnes, a été inaugurée samedi par le ministre des Mines, Bouba Cissé. Cette mine d'or située à Kofi dans la région de Kaï devrait rapporter au Mali près de 23 millions de dollars sur une période d'exploitation de 4 ou 5 ans. De quoi renforcer l'économie malienne sur une pente ascendante, selon Mamadou Diarra Di Igor, ministre malien des Finances.
L'économie malienne a enregistré une reprise avec un taux de croissance de 7,2% grâce à la bonne campagne agricole et au rebond du secteur secondaire. Les projections pour 2015 tablent sur 5% de taux de croissance avec un taux d'inflation aux alentours de 1,7.
Attendu de la Fed ce mardi et demain mercredi, l'évaluation de l'économie américaine. La Banque centrale des États-Unis mettra ainsi en perspective la possibilité d'une première hausse des taux d'intérêt en 2015. Cependant, les baromètres de l'activité au premier trimestre n'ont pas été au plus beau, même si la croissance se poursuit. La Banque centrale devrait donc maintenir ses taux directeurs proches de zéro, comme ils le sont depuis fin 2008.
Vous écoutez Le Monde. Aujourd'hui, c'est l'heure des sports et j'accueille Timothée Donangmaye. Bonjour, Timothée.
Bonjour, Bagassi.
Une délégation d'évaluation des Jeux du Commonwealth est en visite depuis hier à Durban, ville sud-africaine, dans la course à l'organisation des Jeux du Commonwealth de 2022.
Cette visite intervient quelques jours après les attaques xénophobes qui ont commencé à Durban, avant de s'étendre au reste de l'Afrique du Sud, faisant 7 morts. Après le retrait de la ville canadienne d'Edmonton, Durban est seul en course et on s'attend à ce que sa candidature soit validée le 2 septembre prochain lors de l'Assemblée générale des Jeux du Commonwealth à Auckland, en Nouvelle-Zélande.
Toujours en Afrique, un nouvel entraîneur pour l'Éthiopie.
Il s'agit de Johannes Salé qui va succéder au Portugais Mariano Barreto, remercié pour n'avoir pas réussi à qualifier le pays à la CAN 2015 jouée en Guinée équatoriale. Ancien joueur de la sélection éthiopienne et entraîneur du club Dedebit FC, Salé aura pour tâche de qualifier les Éthiopiens à la CAN 2017.
Et puis en boxe, l'Amérique attend l'autre combat du siècle qui mettra aux prises samedi à Las Vegas le Philippin Manny Pacman Pacquiao et l'Américain Floyd Pretty Boy Mayweather.
Eh oui, Bagassi, tous les records sont battus à Las Vegas, une ville pourtant connue pour ses extravagances. Ainsi, les billets d'accès à la séance de pesage des deux boxeurs coûtent officiellement 10 dollars, mais se négocient sur Internet jusqu'à 700 dollars. Une place au pied du ring pourrait vous revenir à plus de 100 000 dollars. Le combat de samedi pourrait générer jusqu'à 400 millions de dollars. Les deux boxeurs vont gagner un pactole, 180 millions de dollars pour Mayweather et 120 millions pour Pacquiao. Les fans du Noblard espèrent que ce match du siècle remettra leur sport à l'honneur. Et pour terminer, la suite des playoffs du championnat nord-américain de basketball, Bagassi.
Oui, hier soir, les Brooklyn Nets ont eu raison d'Atlanta, 120 à 115. Les deux équipes sont désormais à égalité dans la série 2-2. Défaite de Chicago face à Milwaukee, 88 à 94. Chicago mène la série 3-2. Et enfin, tard dans la soirée, Memphis a perdu face à Portland, 92 à 99. Memphis mène la série 3-1.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Courant, votre compagnie pour cette édition du mardi 28 mars 2015. Place maintenant au dossier du jour. Les autorités du Maryland, ici aux États-Unis, ont annoncé hier soir le déploiement massif de la garde nationale et imposé un couvre-feu nocturne pour amener le calme dans la ville de Baltimore. Cette ville est située à une quarantaine de kilomètres de Washington, la capitale fédérale, et a été le théâtre de violences et de pillages qui ont éclaté peu après les obsèques d'un jeune noir après son interpellation par la police. Sur la tension dans cette ville portuaire où vivent beaucoup d'Africains, j'ai joint Omar Cissé. Il est malien, résident à Baltimore.
J'ai vécu ici pendant beaucoup d'années et c'est ma première fois de voir vraiment une situation aussi catastrophique que nous sommes en train de constater. La famille qui avait déjà demandé à ce que les gens ne protestent pas, mais il y a quand même des gens qui sont venus protester. Donc la protestation a un peu commencé vers là-bas, mais vers les environs de 10 heures, sur Liberty Heights, il y a un mall là-bas qu'on appelle Monamine Mall. Donc c'est là-bas que les choses ont commencé un peu à s'empirer. Ils ont commencé à saccager et commencé à brûler des stores comme CVS et autres, quoi.
Alors, on sait que Baltimore est à une quarantaine de kilomètres de Washington. Est-ce qu'il y a beaucoup d'Africains qui vivent là-bas?
Oui, Baltimore, il y a beaucoup d'Africains. Nous avons une très forte communauté malienne dont je fais partie. Et nous avons une forte communauté guinéenne. Nous, on a une communauté ivoirienne. Mais les plus grandes communautés ici à Baltimore, du côté francophone, c'est surtout les Maliens et les Guinéens. Et il y a beaucoup de Nigériens ici.
Et qu'est-ce que vous vous dites concernant ces manifestations?
Après avoir fait quelques années ici, effectivement, tu vois qu'il y a une grande majorité de Noirs américains qui vivent dans une sorte de gangrène dont ils n'arrivent pas à s'en sortir. Naturellement, nous avons beaucoup de gens qui se sont donnés à la drogue, et beaucoup qui sont en probation, et la pauvreté. Donc, tu mets tout ça ensemble avec la manière dont ils sont coincés, je dirais, par les policiers. Donc, ça peut créer un truc comme ça.
Voilà, c'était Omar Cissé, un Malien résident à Baltimore. Oui, au Burundi, la police a encore dispersé une manifestation d'opposants à la candidature du président Pierre Nkurunziza pour un troisième mandat. Hier, deux personnes ont été tuées par balle. Pour faire le point, Idriss Fall a joint à Bujumbura Maître François Nyamoya. Il est secrétaire général du MSD, le mouvement pour la solidarité et la démocratie, un parti d'opposition au Burundi.
La mobilisation, c'était encore forte comme hier, mais il n'y a pas eu de victimes comme hier, il n'y a pas eu de morts, mais il y a eu quelques blessés. Et l'armée était venue à la rescousse. L'armée avait un meilleur comportement que la police.
Et les milices dont on parle là, ça c'est quoi cette milice?
Les Imbonerakure, oui. Ils se sont mobilisés de plus belle aujourd'hui parce que même des nouvelles qu'on a, qui reste quand même à vérifier, c'est que les Imbonerakure étaient en train d'être dispatchés dans les quartiers par des camionnettes qui apparemment sont des camionnettes de la police mais qui n'ont pas de plaque d'immatriculation. Alors c'est très inquiétant. il y a quelques minutes, il y a une radio locale, la radio Bonesha, qui fait état d'une information selon laquelle il y aurait même des éléments rwandais des FDLR. Mais selon cette radio, la police aurait démenti cette information. Ça donne une idée de l'atmosphère.
Et la radio publique africaine est fermée?
La radio publique est fermée. Et c'est extrêmement grave. Les autres radios privées ne peuvent plus émettre à l'intérieur du pays. Ça ajoute à la psychose parce que maintenant, sans ces médias, les rumeurs peuvent avoir libre cours et ça devient extrêmement dangereux. Donc vraiment, là, on fait appel à la communauté internationale de faire pression sur le gouvernement pour qu'il laisse les médias travailler. Il en va même de la sécurité du pays.
On nous dit que Pierre Claver Bonimpa est arrêté. Il y a la traque aussi des leaders de la société civile.
Oui, il a été arrêté. Des agents de la documentation qui l'ont pris. Mais on n'a pas de nouvelles jusqu'à présent. Est-ce que toutes ces mesures, ces arrestations, des mandats en cours contre des personnalités des partis politiques ou même de la société civile, au lieu de calmer le jeu, ça aggrave la situation. On est vraiment en plein processus de déflagration.
Et où sont les leaders politiques, genre Agathon Rwasa, Alexis Nduyijé? Est-ce qu'ils sont dans le pays ou bien?
Alexis Nduyijé, lui, il était à l'extérieur depuis mars. Hein. Mais les autres, ils sont ici, mais ils ne sont pas libres de leur mouvement. Ils sont cachés, quoi.
Est-ce qu'il n'y a pas de risque que le pays bascule dans des nouvelles rébellions?
Rébellions classiques, non, pas dans l'immédiat en tout cas. Aujourd'hui, c'est le risque, c'est le risque d'une violence généralisée entre les tenants du pouvoir et une partie de la police des Imbonerakure contre le reste de la population. C'est le grand danger. Mais la guérilla, ce n'est pas dans l'immédiat. C'est pas impossible, mais ce n'est pas dans l'immédiat.
Voilà, c'était Maître François Nyamoya, secrétaire général du MSD, le Mouvement pour la solidarité et la démocratie au Burundi. Ouverture ce lundi à Kinshasa des États généraux de la justice jusqu'au 2 mai prochain. Magistrats, avocats et membres de la société civile vont établir un diagnostic sur les maux qui rongent la justice en RDC afin de lui permettre de retrouver sa crédibilité. C'est la première fois en tout cas que depuis 19 ans que ces généraux s'organisent. Reportage d'Éric Ambago de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Redorer le blason terni de la justice congolaise, c'est le sens de ces assises dont les dernières ont été organisées en 1996. Le président congolais Joseph Kabila, qui a ouvert ses travaux, a fait un constat. Il reste beaucoup à faire pour crédibiliser la justice congolaise.
En dépit des avancées que nous enregistrons sur le terrain de réformes institutionnelles dans le secteur de la justice, les comptes sont loin d'être faits sur ce qui intéresse les justiciables. Il s'agit de ce qui touche à la dignité de l'homme, à la sécurité de son patrimoine et aux transactions grâce auxquelles il participe à la création de la richesse nationale. Pour rencontrer ses aspirations, l'accès à la justice demeure un impératif majeur afin que chaque citoyen, où qu'il soit, accède à son juge naturel pour faire valoir ses prétentions. Ce qui importe par ailleurs, c'est le changement de mentalité de tous les acteurs du secteur de la justice.
Le président du syndicat national des magistrats du Congo estime que ces états généraux doivent permettre de faire un vrai diagnostic sur les maux qui rongent la justice congolaise. Sambaï Mutenda Lukusa.
Et il faut aussi que les membres de cette assemblée soient francs et que tout le monde comprenne que nous avons aujourd'hui un combat de quitte ou double. Où la justice marche, ou elle ne marche pas. On s'est battu pour le Conseil supérieur de la magistrature. Vous avez vu comment il a fonctionné de manière pas convaincante, en tout cas pas attendue. Et il nous faut aujourd'hui prendre des résolutions fermes, qu'on puisse prendre le taureau par les cornes et qu'on puisse secouer le baobab, que l'on voit un peu de quel côté et pourquoi la justice ne fonctionne pas.
De son côté, Maître Franck Moulenda, avocat au barreau de Kinshasa, ses assises doivent permettre d'instaurer une justice distributive en République démocratique du Congo.
La justice, c'est le dernier rempart de la société. C'est la base, le fondement du contrat social. Il ne faut pas qu'il y ait une justice pour les riches et une justice pour les pauvres.
Pour sa part, l'ONG Human Rights Watch souhaite que des recommandations sur la lutte contre l'impunité soit adopté par les participants à ces travaux. De Kinshasa, Eric Kambago de Top Congo pour VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse voafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos, et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
Le Sénégal a mis en place un fonds de garantie pour les investissements prioritaires dans le cadre de son plan Sénégal émergent ou PSE. L'État sénégalais veut amener le secteur informel, les petites et moyennes entreprises, à participer au développement. La diaspora sénégalaise aussi est appelée à mettre la main à la pâte. Dans ce cadre, l'administrateur du fonds Djip termine aujourd'hui sa tournée ici aux États-Unis et au Canada. Idriss Fall a joint Doudouka, administrateur du fonds Djip, pendant son escale de Washington.
Sénégal, le tissu économique est composé de 90% de petites et moyennes entreprises qui ne captent malheureusement que 10% des crédits bancaires. C'est dans ce cadre-là que le gouvernement du Sénégal a mis en place un fonds de garantie appelé FONGIP, Fonds de garantie des investissements prioritaires, pour mobiliser les ressources des banques privées vers les investissements des PME et des PMI.
Et dans ce cadre, vous êtes aux États-Unis, vous avez fait une tournée. Qu'est-ce que vous êtes venu faire aux États-Unis avec la diaspora alors?
La diaspora est une des cibles prioritaires puisque, comme vous le savez, beaucoup de porteurs de projets viennent de la diaspora. Et aujourd'hui, la stratégie du gouvernement du plan Sénégal émergent, c'est de promouvoir l'investissement vers les secteurs prioritaires comme l'agriculture, les secteurs à haute valeur ajoutée. Et il s'agit de venir déjà présenter le produit nouveau, le fonds GIF à la diaspora et de les inciter à investir dans le pays, à réaliser leurs projets. Donc il s'agit d'aller au Canada pour rencontrer la diaspora, aux États-Unis, à New York, plus précisément à Atlanta, à Washington et à Columbus.
Est-ce que votre tournée a donné concrètement quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose que des membres de la diaspora veulent investir au Sénégal?
Oui, nous avons déjà enregistré des projets déjà intéressants. Il y a déjà, pour en citer un, il y a une fédération des femmes coiffeuses des États-Unis qui ont déjà mis en place une société anonyme avec 100 000 dollars de capital déjà libéré et qui voudrait investir dans un domaine agricole au Sénégal vers Moro avec un projet de 340 millions. Ils avaient déjà un déficit de financement et le fonds GIP pourrait en tout cas garantir le crédit restant et les accompagner à réaliser leur projet. Également, il y avait un autre sous-fonds de garantie qu'on a mis en place, c'est le FONGALOG, le fonds de garantie pour l'accès au logement des personnes à revenus irréguliers. Les Sénégalais de l'extérieur n'ont pas souvent pour beaucoup des revenus réguliers et n'avaient pas accès à des crédits bancaires parce que les banques demandaient des revenus réguliers ou des bulletins de salaire. Donc nous avons mis en place ce fonds de garantie pour leur permettre d'accéder tout de suite à des crédits pour réaliser leur projet de logement.
Voilà, c'était Doudouka, il est administrateur du fonds GIP, un fonds de garantie au Sénégal.
Salut les amis, Roger Moumtou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque mardi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, antenne libre, des sujets, débats. RM Show donne la parole aux auditeurs de la VOA. Ne ratez pas votre émission interactive. RM Show vous dit Peace Africa.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Dakar, sur 102 FM. Top Congo, Kinshasa. Nostalgie FM, Ouagadougou. 99.8 FM, Korogo, Côte d'Ivoire. Et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui, sur VOA Afrique.
Voilà, c'est tout donc pour cette édition. Votre compagnie ce matin, Michel Joseph, qui a aussi assuré la production, et moi-même, Bagassi Koura. Un grand merci à toute la rédaction de VOA Afrique. Merci à Tiva Le Monde. Aujourd'hui, je vous souhaite de passer une excellente journée.
Soyez au cœur de l'info.